Pauline Pucciano, Titania 4.0. Chapitre 13. À la recherche de la mémoire perdue. Jean et Mito sortirent de la péniche à l'aube et assistèrent, l'œil morne, à son départ. Le soleil levant n'était pas assez fort pour que les moteurs tournent à fond. Dans ce jour pâle, l'embarcation paraissait se traîner comme une bête malade. Ce fut un soulagement malgré tout de la voir s'éloigner. Titania, ou ce qu'il en restait, y était paisiblement endormie, à l'abri, protégée par Danton qui l'emmenait loin du danger. Des HR frigorifiés s'éveillaient le long du quai et remettaient en branle leurs carcasses rouillées. Jean se frotta les yeux, serra contre lui son Hervé et tendit celui de Titania à Mito. « Tiens, je l'ai pris pour toi, comme tu n'en as plus. » Mito eut un regard un peu trouble. Disposer du Hervé de quelqu'un, c'était comme admettre qu'il était mort. « Elle n'en aura pas besoin, tu crois ?»«
Pour l'instant, c'est une fillette de 8 ans. Ce dont elle a besoin, c'est qu'on lui ramène ses souvenirs. »
Mito jeta un coup d'œil circulaire, par habitude. « Il faut qu'on contacte Locard, avant tout, et puis on retournera voir l'Amazone. » Jean, à l'évocation de cette femme cruelle, eut un moment de découragement. « Tu as un plan ?»«
Pour l'instant, pas vraiment. On va se poser quelque part et voir ce que Locard propose. »
Ils marchèrent pendant un quart d'heure le long de la Seine, en direction de la Concorde, et finirent par s'arrêter place du nouvel hôtel de ville. Depuis la désétatisation, il n'y avait plus de services municipaux, et c'était une filiale de LID, Vive Paris, qui avait racheté le bâtiment que les Parisiens appelaient le vaisseau spatial. Entièrement métallique, avec un bec profilé et un corps rond, strié de passerelles, il assurait l'exploitation touristique de la ville comme un astronef tirant d'une planète toutes les ressources énergétiques possibles. On avait parfois l'impression que, lorsque Paris serait exsangue, submergé par ses HR et ses bâtiments en ruine, le vaisseau spatial s'envolerait pour aller exploiter ailleurs une autre victime. Ils s'installèrent à la terrasse d'un café luxueux, dans lequel des touristes cousus d'or avalaient un petit déjeuner à 300 crédits. Un servibo vint prendre la commande, et Jean et Mito se contentèrent de nutriments et d'un café noir, le traditionnel breuvage parisien, amer et brûlant, qui depuis plusieurs siècles attaquait l'estomac des consommateurs désargentés. Quelques instants plus tard, leurs avatars, enfin ceux de Jean et Titania, l'Arlequin et la Vampe, se retrouvaient dans le salon privé du palais OMS de Stéphane Locard. L'avatar de ce dernier était là et ne tarda pas à les abreuver de paroles.
« Mes amis, je suis heureux de vous trouver enfin. La situation est très critique et si vous le souhaitez toujours, nous devons procéder à votre changement d'identité dans les plus brefs délais. »«
Ce ne sera pas possible, » déclara la Vampe. « Ce n'est pas Titania qui vous parle, mais Mito. » Titania ne répond plus.
Elle semble faire une réaction traumatique à l'assaut d'hier soir. Elle a perdu une grande partie de sa mémoire, ajouta Jean, dont les bulles colorées restèrent suspendues dans l'espace virtuel. L'avatar de Locard resta si immobile que Jean et Mito se demandèrent s'il n'était pas parti.
« Que voulez-vous dire ?»«
Exactement ce qu'on vous dit, » rétorqua la Vampe de sa voix traînante. « Titania se comporte comme une fillette de 8 ans. Elle répond au nom de Daphné, demande où est sa maman et ne nous reconnaît pas. »«
Mon Dieu, quel développement romanesque ! Serait-il envisageable de l'interviewer dans cet état ?»«
Hors de question, » intervint Jean. « Elle a quitté Paris, » reprit la Vampe. « Ne vous préoccupez pas d'elle pour l'instant. » Nous voulions vous prévenir que tant qu'elle n'aura pas recouvré la mémoire, nous ne pourrons procéder à aucun changement d'identité.
« C'est fâcheux, » dit Locard, « c'est extrêmement fâcheux. Tout était prêt, je n'attendais que vous. Ne pourriez-vous au moins, vous deux... »«
Laissez-nous quelques jours, 3 jours, » répondit Jean, « et dites-nous où nous devrons aller quand nous serons prêts. »
L'avatar de Locard resta bloqué un instant puis répondit. « Je vais donner des ordres en ce sens. Titania doit se faire opérer à Londres avec les consignes particulières qu'elle m'a données. » « Mito, votre opération à vous est prévue à Paris. Personne ne connaît votre véritable identité, et il m'a paru moins risqué de vous laisser ici. Quant à vous, Jean, vous serez opéré à Rome. Les nouvelles identités informatiques et les contrats de travail à signer pour Happenings vous seront remis par le personnel des cliniques. Toutes les coordonnées dont vous avez besoin sont là. »
L'avatar donna à Jean un cube de données.
« Merci, fit Jean. C'est très généreux de votre part. » « Tout ceci était convenu, dit Locard. » « Quant à être généreux, sachez que l'audience de votre procès a été retentissante et qu'on ne parle que de la mort d'Irina Morgovic sur le réseau. Vous avez rempli votre part de marché au-delà de toute espérance. Vous ne me devez rien. Mais moi, je me dois de vous expliquer la situation, dont la complexité vous a peut-être échappé. Il se peut que, connaissant tous les ressorts de ce drame,
Vous souhaitiez en changer le dénouement. Que voulez-vous dire? Que Titania pourrait choisir de ne pas changer d'identité au final. Expliquez-vous, écrivit Jean. La mort d'Irina Morgovic arrange beaucoup de monde, et nombre de gens souhaitent faire main basse sur sa fortune. Ils sont tous en train de se tirer dans les pattes, en quête à l'appui, pour établir la succession. À commencer par ses associés, sans oublier sa fausse fille qui réclame d'ores et déjà le plein héritage. Comment peut-elle y prétendre? Oh, je vous rappelle que lors de son passage chez moi, Irina a formellement accusé Titania d'être une usurpatrice. Elle a nié totalement qu'elle puisse être sa fille et a donné à cette fausse Daphné tous les dehors de la légitimité. Et Titania dans l'affaire? Cette jeune fille souhaiterait probablement la voir morte. Les associés préfèrent qu'elle soit dans la nature pour le moment parce que cela gèle la succession pendant les recherches et que ça leur laisse du temps pour se retourner. Et puis il y a l'avocat, Régenville. Oui, lui aussi veut la peau de Titania, non pas pour l'argent, mais par vengeance. Et la police? La police enquête officiellement sur la mort d'Irina Morgovic, et Titania est leur premier suspect. Au cas où elle serait inculpée, il y aurait probablement un long procès, au cours duquel, techniquement, Titania pourrait très bien revendiquer la succession de sa mère. Si elle hérite, elle pourra prendre la suite d'Irina aux commandes et donner les ordres à son tour. La police et la justice lui mangeront dans la main. Elle sera très probablement acquittée. Par quel miracle la fortune des Morgovic l'empêcherait-elle d'être condamnée? Irina siégeait au conseil d'administration de la police. Elle avait également ses entrées à la justice. Si Titania devait lui succéder, elle aurait le même réseau d'influence, la même capacité à étouffer les affaires ou à faire pression sur les témoins. Le procès pourrait se faire à décharge. « Vous êtes en train de nous dire, dit la vampe, que Titania pourrait se rendre à la police, hériter et se sortir indemne de tout cela. » « Oui, c'est bien ce que je crois. » « Elle ne voudra jamais, affirma Jean. » « On ne peut pas prendre la décision à sa place, répliqua Mito. On est en train de parler de millions de crédits. L'argent ne l'intéresse pas. »« En es-tu si sûr ? » demanda la vampe. Jean resta interdit. L'était-il vraiment, après tout ? Sa reine de chair et de diamants n'avait-elle pas sacrifié au luxe jusqu'à sa propre vie ? Ne lui avait-elle pas dit que la vie ne valait pas la peine d'être vécue sans beauté ? Renoncerait-elle sciemment à une telle fortune ? Cette question lui faisait mal, car il pressentait qu'il risquait de la perdre plus sûrement que de toute autre manière. Il l'avait aimée alors qu'elle avait vendu son corps, mais l'aimerait-il encore si, en prenant la tête de Morgan Corp, c'était son âme qu'elle vendait ? Nous lui poserons la question quand elle aura recouvré la mémoire, finit-il par dire. « Alors vous devriez vous dépêcher, fit observer Locard. Vous n'avez pas de temps à perdre. » En quelques clics, Jean et Mito se retrouvèrent face à face dans le café qui donnait sur le vaisseau spatial. Il y avait entre eux beaucoup de non-dits qui ne demandaient qu'à éclater. Mais l'heure n'était pas venue de vider leur sac, ils le savaient tous les deux. Ils réglèrent donc leur consommation et prirent le métro, sombre, aux aguets. Les usagers ne parlaient guère, obéissant aux codes urbains complexes qui permettent de s'isoler dans la foule et de ne pas souffrir de la promiscuité. On évitait soigneusement de rencontrer le regard des gens, et plus encore de leur parler. On avait de préférence le RV branché sur les oreilles, on tenait sa droite dans les couloirs, progressant à une vitesse constante, et on doublait par la gauche en accélérant le pas, vieille coutume héritée de la conduite automobile qui perdurait encore bien des années après son abandon. On s'efforçait d'avoir une attitude prévisible, la vraie politesse consistant à se rendre invisible aux yeux des autres usagers pour gêner le moins possible leur propre progression. On ne manifestait aucune émotion, aucune surprise devant les excentricités vestimentaires ou corporelles des autres. Il était de mauvais goût d'observer quiconque, même ceux qui parlaient tout seuls. Les Parisiens, anonymes, tolérants et indifférents, avaient poussé jusqu'à l'art leur capacité à ignorer autrui. En fait, grogna Mito en arrivant près de la porte d'Anières, ce ne sont pas seulement les HR qui sont invisibles. Les Parisiens se sont tous crevés les yeux. Jean ne répondit pas. Il suivit Mito, préoccupé, à travers le seuil du périph. La première fois, la sensation de pénétrer dans un autre espace-temps l'avait impressionné. Aujourd'hui, il passa la porte en pensant à autre chose. La rue agréable et aérée des Nantis avait cédé la place à l'espace saturé et crépusculaire des HR. Des colosses sortis d'un spectacle de catch du XXe siècle déambulaient parmi des créatures plus mystérieuses. Mais Jean appliquait maintenant sur le périph la même règle que dans le métro. Ne pas regarder pour ne pas être vu. Ne pas relever les armes, les implants, les bestioles qui traversaient son champ de vision. Ne pas croiser de regard, toujours garder la tête haute, prendre l'air de celui qui sait où il va.
C'était assez simple en vérité. Il suffisait de rester concentré. « Tu n'es plus le même homme, » remarqua Mito. « Toi non plus, » souffla Jean. Ils avaient passé le guichet sans problème avec la mine ennuyée de gens qui se prêtent aux formalités mais qui n'ont pas que ça à faire. Le tatoué qui officiait ne parut pas les reconnaître. « Tu vois, qu'est-ce que je te disais ?» dit Mito. « Il ne t'a pas remis. » « On doit trouver l'Amazone, c'est ça ? Elle ou un de ses lieutenants ?»«
Vous cherchez l'Amazone ?»
C'était une vieille, dont ils n'avaient pas remarqué la présence, qui leur tournait autour en les flairant. Habillée de manière provocante, maquillée avec outrance, elle étalait son âge, sa peau fanée, sa poitrine flétrie, comme d'autres montrent les dents. « Ça ne te concerne pas, l'ancêtre, » répondit Mito d'un ton sec.
« Ça me concerne si je veux, » répliqua-t-elle d'une voix glapissante.
Ils la contournèrent, mais elle les suivit et se tint à leur hauteur.
« Je sais où elle est, moi, l'Amazone, et je peux même vous introduire. »«
Tu parles d'une introduction, » siffla Mito.
« Ôte-toi de notre chemin. »
Jean laissait faire Mito. Il aurait probablement, quant à lui, répondu poliment à la vieille femme, et cette réaction spontanée lui aurait sans doute attiré beaucoup d'ennuis. Mito connaissait les codes, ici, et Jean préférait se taire.
« Il a perdu sa langue, le Roméo ?»
Jean croisa les yeux de la vieille, perçant comme des vrilles. C'était déjà ainsi que les HR l'avaient surnommée la première fois. Était-il possible qu'elle l'eût reconnue ? Elle s'arrêta, les forçant à s'immobiliser, et attrapa la main de Jean.
« La bonne aventure, mon petit cœur !»«
Si tu veux, la vieille, mais je ne peux te payer que de mots, » dit Jean. Mito le regarda, étonné.
« Des mots contre des mots, c'est un marché honnête !» fit la vieille.
Avec une poigne surprenante, elle posa la main de Jean dans la sienne et de son doigt noueux se mit à tracer des signes sur sa paume. « Drôle de chiromancienne !» grogna Mito. Jean, mal à l'aise, se demandait si les signes tracés sur sa paume avaient un sens. La vieille, tout en se livrant à cette pantomime, ne cessait de le fixer.
« Voilà » dit-elle au bout d'un moment. « À ton tour !»
Jean avait la paume de la main légèrement échauffée, et il plia les articulations des doigts pour les détendre, ce qui lui laissa le temps d'improviser quelques vers. « Sorcière affublée d'oripeaux, de ton doigt puissant et crochu, tu griffes d'invisibles mots dans mon avenir distordu. S'ils sont brillants, reçois l'aumône d'un météore bienveillant. S'ils sont boueux, que tes yeux jaunes pleurent des larmes de serpent. » La vieille parut satisfaite, car elle éclata de rire et battit des mains comme une enfant survoltée.
« Vous voulez voir l'Amazone ? » demanda-t-elle.
« Si tu sais où elle se trouve, montre-nous le chemin. Et assez d'énigmes, » dit Mito.
« Pour ce qui est des énigmes, vous n'êtes pas au bout du compte, » répliqua-t-elle malicieusement en s'engageant, avec une insoupçonnable agilité, sur une échelle branlante qui permettait de gagner une passerelle à quelques mètres de hauteur.
Il s'était immobilisé trop longtemps, et des HR commençaient à les regarder de plus près. Ils n'eurent guère le temps de réfléchir, et, en se demandant s'ils ne commettaient pas une erreur fatale, ils suivirent la chiromancienne en haut de l'échelle. La passerelle métallique bougeait comme un pont de corde, pourtant la vieille s'y déplaçait avec tant d'aisance qu'ils eurent du mal à la suivre. Sur la paroi d'en face s'empilaient trois containers. C'était au troisième, le plus haut, que la passerelle donnait accès. La vieille pénétra dans le bloc d'aluminium, et Jean et Mito échangèrent un regard inquiet. En bas, des HR postés au pied de l'échelle ne les encourageaient guère à faire demi-tour. « Attends !» le retint Jean. Mito fronça les sourcils. Jean regardait sa paume gauche, où une inscription brune, de la couleur des taches de soleil, était apparue. « Juliette ne peut pas t'oublier !» lut Jean à haute voix. Son visage s'éclaira d'une joie béate, et Mito se sentit soudain très mal en pensant à Titania et à sa voix d'enfant. « Arrête de sourire bêtement, lui dit-il. C'est le boniment qu'elle sert à tout le monde. »«
Peut-être, rétorqua Jean, mais avoue que c'est une coïncidence troublante. »«
Ouais. En attendant, ce qui me trouble plus concrètement, moi, c'est de choisir entre les gros bras du bas et la sorcière du dessus. »«
Choisissons l'antre de la sorcière, bien sûr, » trancha Jean sans hésiter.
Il passa devant Mito, manquant presque de le faire tomber, pour pénétrer le premier dans le conteneur. Les jeunes gens mirent quelques instants à s'accoutumer à la pénombre. Les panneaux solaires ne suffisaient guère à cette heure matinale. La vieille n'avait pas menti, car l'Amazone était là, un casque de réalité virtuelle sur la tête. Jean avait compris que les HR n'étaient pas tous exclus du réseau. Certains le sillonnaient avec des bécanes extrêmement sophistiquées. Cela semblait être le cas de l'Amazone.
C'est pourquoi ? Demanda-t-elle de mauvaise humeur à la vieille.
C'est des jeunes gens qui veulent te voir. Il y a un petit poète qui me plaît bien.
L'Amazone retira son casque assez brutalement et, sans se lever, regarda les deux garçons de pied en cap. Ce ne seraient pas les petits morveux qui se trimbalaient avec cette belle valise blanche ?
Bingo ! Dit Mito.
Vous avez du toupet de vous pointer ici, constata-t-elle, sans animosité. La vieille s'était accroupie dans un coin et les regardait par en dessous, en faisant parfois des petits bruits appréciateurs avec sa bouche.
On voudrait juste savoir, au cas où l'info ne serait pas trop confidentielle, à qui vous avez fourgué les puces.
Les puces de Titania ?
Jean ne cacha pas sa surprise.
Oui, dit-il. Vous la connaissez ?
Mais qu'est-ce que tu crois ? Qu'on vit comme des sauvages ? La moitié du réseau ne parle que d'elle, et de vous d'ailleurs.
Bref, dit Mito, juste une petite info, un coin où aller fureter, une adresse, un nom, un signalement, n'importe quoi.
L'Amazone tapota l'ampoule qui clignotait, et la lumière fit soudain plus vive. Elle les dévisagea avant de répondre.
Au début, on en a bradé plein parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Je ne sais pas où ça a atterri. Et puis après, on s'est rendu compte de la valeur de la marchandise, et on a eu affaire à des clients plus sérieux.
« Vous avez dû vous faire un paquet de crédit, remarqua Mito. »«
Pas mal, oui. »« Et ces clients, est-ce que par hasard vous auriez une idée d'où on pourrait les retrouver ?»«
Le collectionneur a bien racheté un tiers du stock initial. Pour les autres, je ne suis pas sûr. »«
Le collectionneur, » répéta Mito.
« Oui, un type qui paye rubis sur l'ongle et qui ne trafique pas. Je vous préviens, il ne voudra jamais vous les revendre. C'est un vrai mordu des puces mémoire. Il les amasse depuis plus de 15 ans. »«
Et dans quel coin on peut le trouver ?»
En général, quand on doit le contacter, on va au Père Lachaise, sur la tombe d'un certain Marcel, division 85.
Marcel tout court.
Marcel Proust ou un truc du genre.
Marcel Proust, corrigea Jean.
Évidemment.
Pourquoi évidemment ?
Parce que lui aussi, c'était un mordu de la mémoire.
Tu m'en diras tant, mon poulet. Et maintenant, va falloir me vider les lieux. Je supporte pas la compagnie des hommes.
« Oh, vous savez, » dit Mito avec un sourire enjôleur, « des hommes, c'est un bien grand mot. »
Jean jeta un coup d'œil à la vieille qui le regardait fixement.
« Je l'aime bien, celui-là, » murmura-t-elle de sa voix crépitante. « Je crois que j'ai le béguin. »
Jean, mal à l'aise, recula.
« Mesdames, » fit Mito en prenant congé avec une révérence théâtrale. Puis ils s'élancèrent sur la passerelle. Les types qui stationnaient en bas s'étaient dispersés. Et ils furent de retour à la civilisation en seulement quelques minutes, courant à perdre haleine. Jean ne pouvait s'empêcher de vérifier sans cesse son drôle de tatouage. Juliette ne peut pas t'oublier. Et tandis qu'ils reprenaient leur souffle sur le boulevard, ils gardaient en mémoire, très vive, l'image de cette vieille accroupie, de son décolleté pitoyable et du rouge qui débordait de ses lèvres minces. Cette vieille dont les yeux perçants avaient peut-être déchiré les voiles de l'avenir et qui lui avait insufflé, en même temps qu'un profond malaise, un formidable espoir.